les podcasts de Radio Vatican.
Le groupe État islamique a perdu la capitale de son califat autoproclamé en Syrie. Ce mardi 17 octobre, les forces démocratiques syriennes ont annoncé la reprise totale de la ville de Raqqa, dans le nord du pays. Soutenus par les frappes aériennes de la coalition internationale menée par Washington, les soldats arabo-kurdes arrivent ainsi au bout de 4 mois de combats intenses au cœur de la métropole. C'est aussi la fin de l'offensive Colère de l'Euphrate, lancée il y a tout juste un an. La chute de Raqqa représente donc un lourd revers pour le groupe État islamique qui en avait fait son siège en Syrie depuis 2014. C'est d'ailleurs depuis Raqqa que les attentats meurtriers perpétrés dans le monde entier ont été planifiés. Que représente la perte de Raqqa pour l'organisation État islamique? Marie Duhamel a posé la question à Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2 et chercheur invité à l'université de Stanford en Californie.
Pour Daesh, c'est la perte de la capitale, donc c'est la chute du califat, hein, on peut en parler comme ça. Sauf qu'ils avaient déjà trouvé la parade avant, c'est-à-dire que le califat pour eux c'est un califat spirituel, un califat itinérant. Donc on va voir sans doute réapparaître Baghdadi dans le Sinaï, dans le sud libyen, en Afghanistan, où il continuera à incarner ce soi-disant califat. Après, c'est une perte militaire extrêmement importante parce que Daesh a été écrasé à Raqqa comme il a été écrasé à Mossoul et il ne peut plus donc tenir des villes, des zones peuplées. Il est obligé de se réfugier dans le désert, dans les campagnes ou de retrouver l'action clandestine d'avant la guerre civile syrienne.
Quelles conséquences ça peut avoir en termes d'influence de Daesh, cette chute de Raqqa?
Aujourd'hui, avec la perte de Raqqa, il perd une base logistique importante en termes militaires, en termes d'opérations terroristes. C'était plus ou moins à Raqqa qu'ont été décidées pas mal d'attaques terroristes en Europe, comme celle du Bataclan par exemple, où là les terroristes sont venus directement de Raqqa, en tout cas ceux qui se sont fait exploser à proximité du Stade de France. Ils perdent aussi en termes de propagande, parce qu'à Raqqa, il y avait des studios d'enregistrement, il y avait toute une logistique pour diffuser le message de l'État islamique sur Internet, la revue Amik qui était faite à Raqqa. Parce qu'à Raqqa, on avait une concentration de djihadistes étrangers, qui pouvaient être d'origine arabe, mais qui avaient un passeport européen, qui avaient été formés dans les universités européennes, et qui étaient des gens extrêmement compétents. Abu Moussa Bessouri, l'idéologue de Daesh, avait prévu pour les djihadistes originaires d'Europe justement cette fonction de propagandiste, parce que lui-même avait fait ses études en France, donc il avait pu apprécier la qualité de l'enseignement en Europe, et il se disait que le djihad avait besoin de gens comme ça pour sa propagande. Donc là, ça va être plus difficile. Bon, ils vont essayer évidemment de se réinstaller ailleurs. Internet, on peut se délocaliser facilement. Mais ça sera quand même plus difficile pour inonder les réseaux sociaux par de la propagande.
Aujourd'hui, il reste finalement très peu de territoire à Daesh en Syrie.
Ils contrôlent encore à peu près 10% de la Syrie, mais essentiellement une zone désertique à l'est de la province de Rezor, à la frontière irakienne. Ils contrôlent encore davantage en Irak. Ils ont à peu près 50 000 km² en Irak, toute la province d'El Anbar, qui est une province aussi largement désertique, peuplée par des tribus arabes très hostiles au gouvernement irakien. Ces tribus qui peuvent servir de sanctuaire pour des djihadistes, notamment parce que faisant partie de ces tribus, ils vont trouver refuge et protection dans ces tribus, mais aussi, pourquoi pas, des cadres étrangers qui pourront s'y cacher avant d'être exfiltrés vers d'autres territoires de Daesh, le Sinaï, la Libye ou l'Afghanistan.
Ça veut dire qu'ils vont créer là, par exemple, des cellules dormantes?
Oui, en Syrie. En Irak, on sait très bien qu'il y a des cellules dormantes. Ils attendent le moment pour commettre des attentats. Il y a eu des bombes qui ont sauté à Damas la semaine dernière. En Europe, ça sera la même chose. Ceux qui arriveront à revenir en Europe, Molenbeek, Saint-Denis et autres sanctuaires, constitueront des cellules et ils seront prêts à passer à l'action dès qu'ils pourront. Le califat territorial est mort, mais ils vont continuer à le faire vivre dans l'imaginaire. Ils ont déjà évidemment prévu la parade. Tout d'abord, ils vont magnifier l'âge d'or de ce califat, ce paradis terrestre que le monde entier a voulu détruire justement parce que c'était un paradis terrestre musulman qui fonctionnait parfaitement. On va vite oublier les erreurs, on va vite oublier les massacres, la corruption, etc. Ils vont le faire vivre de cette manière dans l'imaginaire collectif et ils vont s'en servir pour continuer à recruter et à commettre des attentats. Et je dirais que ça serait même, à la limite, peut-être plus facile parce que c'était comme l'Union soviétique dans le passé. Tant qu'elle existait, on pouvait dénoncer le goulag, les pénuries, la dictature, etc. Et aujourd'hui que l'Union soviétique a disparu, et dans l'imaginaire de la gauche communiste, elle retrouve sa magnificence, etc. Le califat de l'État islamique, ça va être le même processus.
Est-ce qu'on peut parler maintenant de Raqqa et même de l'après-Raqqa? Qu'est-ce qui va se passer dans la ville et d'abord pour la population?
Pour la population, bon bah c'est évidemment un grand soulagement de voir partir ce groupe terroriste qui régnait par la terreur. Les populations vont se retrouver aujourd'hui entre, je dirais, Carib et Silla, c'est-à-dire entre le régime syrien qui revient et puis les forces kurdes qui ne sont pas forcément les bienvenues, enfin les bienvenues si elles comptent rester. Parce que pour les populations arabes, il n'est pas question d'être dominé par les Kurdes. Il y a le vieux clivage ethnique qui va remonter à la surface. Vis-à-vis du régime syrien, c'est un peu différent. Ce sont aussi des Arabes, donc il y a une solidarité ethnique qui se met en place. Après 6 ans de guerre et l'occupation de l'État islamique, finalement, le régime syrien apparaît comme un moindre mal. Il va juste falloir qu'il négocie avec les chefs de tribu son retour, qu'il négocie une certaine autonomie à la population locale.
Mais justement, ce sont les forces arabo-kurdes, là, les fameuses SDS, qui ont libéré la ville et pas l'armée loyale au régime syrien. Du coup, concrètement, il va quand même y avoir un problème de gouvernance. Vous dites que ça peut s'arranger par des accords?
Il y a un problème de gouvernance parce que la population de Raqqa, avant la guerre, était à 80% arabe. Il y avait 20% de Kurdes, mais les 20% de Kurdes ont été chassés ou ont fui la ville lorsque l'État islamique s'en est emparé parce qu'il combattait les Kurdes et donc la minorité kurde de Raqqa était considérée comme la cinquième colonne. Aujourd'hui, ce sont les SDF, une force arabo-kurde, mais le commandement est kurde, les dirigeants sont kurdes et le conseil civil qui va gérer la ville de Raqqa va être dominé là aussi par les Kurdes. Alors ils ne vont pas être au premier plan, évidemment, ils vont être derrière, mais enfin personne n'est dupe. La ville a quand même subi des destructions. Il va falloir remettre en place les réseaux d'eau, d'électricité, assurer son alimentation. Ça peut très rapidement dégénérer, causer le mécontentement de la population, qui évidemment accuseront les Kurdes de vouloir s'accaparer la ville, de vouloir faire revenir des Kurdes dans cette ville et chasser les Arabes. Donc l'après-État islamique ne va pas être facile à gérer. Puis il y a toujours le régime syrien qui est de l'autre côté de la rive de l'Euphrate et qui, lui, considère qu'il est légitime pour revenir à Raqqa.
Les forces arabo-kurdes étaient soutenues par Washington. Est-ce qu'on peut se dire que l'avenir de Raqqa, finalement, dépend aussi de Washington?
Est-ce que les Américains vont rester à Raqqa, vont rester dans le nord de la Syrie, même si l'État islamique est vaincu, même s'il a disparu? Bon, il y en a encore pour quelques mois pour finir de l'éliminer de le reste de la Syrie. Ou est-ce qu'ils vont plier bagage? Les échos que j'ai à Washington, c'est plutôt qu'ils se préparent à plier bagage parce qu'ils n'ont aucun intérêt stratégique à rester dans l'est de la Syrie. Il n'y a que des coups à prendre. Il vaut mieux partir sur une victoire contre l'État islamique que se lancer dans une confrontation difficile et incertaine vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Ce qui veut dire que les Kurdes, s'ils sont lâchés par les Américains, eh bien, ils n'auront plus qu'à négocier avec Damas, par l'intermédiaire de la Russie, pour essayer d'avoir des meilleures conditions, parce que sinon, ils risquent de se retrouver entre le régime syrien au sud et puis la Turquie au nord, qui veulent chacun les éliminer.
Les Américains qui ont d'ailleurs calmé les ambitions kurdes côté irakien, déjà.
Ça peut servir de leçon, justement, aux Kurdes syriens. Le référendum sur l'indépendance n'a pas été reconnu par Washington, alors que tout même Barzani était le meilleur, le principal allié de Washington en Irak et même dans la région. L'armée irakienne s'est emparée de Kirkouk. Les États-Unis n'ont pas protesté, ils laissent faire. Les Kurdes voient bien qu'ils sont seuls et que les États-Unis ne vont pas les protéger.
Des propos recueillis par Marie Duhamel.